Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour un nouvel épisode dans le viseur, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Fabien, donc bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes commandant dans l'armée de terre. Alors, je vais préciser tout de suite que l'épisode que vous allez nous raconter se passe au Mali, se passe en 2016. Mais simplement, on va peut-être juste dire un mot de votre régiment de rattachement, puisque vous êtes originaire, et puis à l'époque, vous étiez dans le 121e régiment du train.
Oui, c'est ça, basé à Montlhéry.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régiment du train? Expliquez-nous.
Ben, un régiment du train, c'est plusieurs escadrons. Donc, généralement, pour un régiment du train qu'on va dire normal, c'est...
Attendez, je vais vous poser tout de suite la question qui me taraude. Déjà, donc vous étiez un régiment du train au Mali. J'imagine que vous ne serviez pas que du train. C'est-à-dire, c'est le régiment du train, ça n'est pas que la voie ferrée, c'est une manière de dire...
Ah, mais même jamais, en fait, les spécialités voie ferrée, c'est pas du tout, enfin, par un ou deux spécialistes, c'est pas du tout notre travail. Non, c'est plutôt l'organisation des convois logistiques, le déploiement de zones de manutention et autres.
Par train, on entend toute la logistique, tout le ravitaillement, tout le soutien, quoi.
Voilà, en gros. Au Mali, c'était principalement les convois logistiques. On était divisés en deux sous-groupements logistiques. Et nous avions la charge d'effectuer les convois logistiques vers les différentes emprises françaises.
Et alors, qu'est-ce que vous transportiez, concrètement? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est du matériel, de la nourriture? Est-ce que vous avez des...
On transporte de tout. J'ai fait plusieurs transports dans différents pays. Sans rentrer dans le détail, je suis parti Liban, Afghanistan, Mali, et j'ai transporté toujours des choses très différentes. Ça va du courrier qu'on transportait en Afghanistan à l'eau beaucoup qu'on transporte au Mali, principalement.
Et alors, juste, c'est quel segment, enfin, j'imagine bien que vous prenez pas le truc depuis la France. C'est-à-dire, à quel moment, c'est quelle distance, en fait, vous, ce dont vous vous chargez, c'est quoi? C'est des centaines de kilomètres? C'est des milliers de kilomètres? Est-ce que vous prenez la logistique en charge quand elle arrive dans le pays, ou est-ce que vous procédez déjà même en amont? Ça commence où et ça s'arrête où, disons, le travail d'un régiment du train?
Bah écoutez, notre travail, ça partait de la base de Gao jusqu'aux différentes emprises, donc de Abeibara, Kidal, Tessalit. Donc, au niveau des distances, c'est pas trop ça qui rentre en compte. Ce qui rentre surtout en compte, c'est l'état du terrain. Quand vous allez sur une route goudronnée, vous allez évidemment dérouler, ça va aller très vite. Le Mali, c'est de traverser du désert, c'est vraiment c'est des ensablements, c'est en saison des pluies, c'est beaucoup de boue, il y a jamais un convoi qui se passe nominalement.
Ouais, donc c'est pas vraiment de la distance, c'est de la distance-temps, quoi.
Oui, c'est surtout de la distance-temps. On pouvait, par exemple, sur le convoi dont on va parler, sur le tout petit trajet qui faisait Kidal à Bébara, on devait passer un jour, on y a mis trois.
Ouais. Alors, parlons-en peut-être. Donc c'était en 2016, en janvier 2016, c'est bien ça?
Novembre 2016.
Novembre 2016, pardon. Donc, au Mali, au sein de l'opération Barkhane.
Tout à fait.
Alors déjà, première question, est-ce que vous savez ce que vous transportez au jour le jour?
La plupart du temps, on sait en gros ce qu'on transporte. Mais après...
Mais parce que j'imagine, c'est tout bête, mais j'imagine que c'est pas exactement la même chose de transporter des munitions ou des...
Non, on est au courant, bien sûr, de si on a des transports dangereux ou autres. Et puis on travaille main dans la main avec le SEA qui nous fournit des vecteurs qui transportent le carburant.
Le SEA, c'est...
Le service des essences des armées, qui a maintenant changé de nom, mais... Mais donc, ils nous fournissent des vecteurs pour transporter du carburant, notamment, donc on sait qu'on a des matières sensibles dans chaque convoi.
Donc là, en novembre 2016, il s'agissait de transporter donc quelque chose de Gao à...
Alors, on venait d'arriver sur Kidal, donc on était parti quelques jours auparavant, on avait fait entre Gao et Kidal, donc un trajet qui s'est passé avec toutes les péripéties habituelles d'ensablement, de crevaison et tout ce qu'on peut rencontrer sur la route. Et là, donc, ma mission était de faire le trajet entre Kidal et Abeibara pour porter du fret, principalement du ravitaillement en eau et du... eau, nourriture et tout ce genre de choses.
Donc, mais c'est,
et essence.
C'est tout bête, mais alors d'une part, on peut rappeler que c'est évidemment essentiel que les lignes logistiques, c'est la ligne de vie, spécialement quand on est dans des postes avancés comme ça. Enfin, c'est la logistique qui permet aux emprises françaises de survivre. Mais là, par exemple, pour c'est un convoi de combien ça fait, c'est-à-dire ça fait, c'est combien de camions, c'est combien de véhicules?
Alors là, c'était 56 véhicules.
D'accord. Donc ça fait quoi? Ça fait un kilomètre?
Ah bah ça fait beaucoup, puisqu'on essaie de maintenir avec les distances poussières un assez grand écart entre les véhicules, puisque vu la poussière que les véhicules font en roulant, on est obligé de se maintenir derrière. Donc ça va largement à plus de 500 mètres entre chaque véhicule.
Ah d'accord. Donc ça fait un convoi de plusieurs dizaines de kilomètres, quoi.
Oui, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'était très long, surtout avec les différences de vitesse des différents véhicules. Donc même si on s'adapte, il y a parfois des élongations énormes. Et notamment, je sais que notre élément le plus en avant, qui était un PRI, lui était
un PRI, c'est
un... peloton de recherche et d'investigation de mémoire. Et donc c'était de l'infanterie qui était détachée pour nous ouvrir la voie, ou de la cavalerie, je crois. Enfin bon, c'est loin dans ma mémoire. Et donc eux, ils étaient notamment au moment où il y a eu ce dont on va parler, ils étaient à 10 km devant.
D'accord, parce que évidemment, bon, précisément du fait que c'est si important et si vital pour les emprises françaises, évidemment c'est largement accompagné, sécurisé par des véhicules blindés,
Tout à fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus maintenant, même nos véhicules de transport dits lourds sont armés, donc les PPLOG. Porteurs polyvalents logistiques terrestres.
Donc ce sont des camions, quoi.
Oui, ce sont des camions, mais qui sont armés maintenant. En Afghanistan, par exemple, les camions n'étaient pas armés. Ils sont armés et blindés. Nous avons ensuite les pelotons d'escorte, donc qui, eux, sont sous VAB, et qui sont du train, et qui ont pour
donc,
mission...
Donc VAB, rappelons que c'est les véhicules de l'avant blindé.
Et qui, eux, ont pour mission de nous de protéger, en fait, les vecteurs. Et de là, on nous rajoute des éléments pour notre convoi. Donc, par exemple, on nous rajoute un FAC, un contrôleur aérien, pour gérer tout ce qui est troisième dimension. On nous ajoute des médecins. Donc, généralement, ils sont détachés du service de santé, ils viennent avec nous. On nous détache des gens du SEA pour acheminer le carburant, comme je vous avais expliqué. Et là, en l'occurrence, j'avais donc un PRI qui était venu avec moi en plus.
Donc des éclaireurs, en quelque
sorte. Des éclaireurs, tout à fait, pour faire une marche en avant, encore plus en avant que ma première patrouille. J'avais aussi des éléments de guerre électronique dans le convoi et qu'on devait acheminer en fait jusqu'à... Ils profitaient du convoi pour faire la navette entre Kidal et Abel Ibarra.
Donc de guerre électronique, c'est-à-dire des gens qui devaient...
On avait des écoutes, de quoi faire des écoutes et de quoi faire de l'interception.
Mais actifs donc dans le convoi.
Actifs dans le convoi. En fait, on les laisse faire leur travail. On les gère, donc on leur dit où est-ce qu'on va, on dit comment s'arrêter, etc. Mais après, en bonne intelligence, on les laisse gérer et graviter autour pour faire leur travail en même temps et profiter de la mission pour remplir leur mission.
Alors, donc, on voit bien ce qu'on voit. On voit maintenant à peu près à la fois ses dimensions et sa structure. Alors, racontez-nous peut-être ce qui s'est passé donc en novembre 2016, donc au cours de ce qu'on voit entre Kidal et Baybara, c'est bien ça ?
Et à Baybara, oui. Eh bien, c'est simple. En fait, en 10 minutes, un IED plus une mine sur deux de mes véhicules, une radio bloquée en émission permanente... Donc, perte de mon chef de convoi et de mon adjoint d'escorte. Puisque le chef de convoi, c'était moi.
Alors, on va peut-être déjà déplier tout ça. Donc, deux véhicules qui sautent sur un IED, donc un engin improvisé, et voilà. Une mine, c'est-à-dire un engin un peu moins improvisé, un peu moins bricolé, quoi.
Mais posé là volontairement, en fait, c'est le premier véhicule a explosé à 12h58. Le deuxième véhicule faisait partie des secours qui étaient censés intervenir sur le premier véhicule,
mais alors
à 13h08.
Mais alors le premier véhicule, c'était celui qui était le plus en avant ?
Il était en arrière, il était parti sur une mission d'interception d'un véhicule, puisque nous avions reçu, par les écoutes, nous avions reçu un signal qui disait qu'il allait se passer quelque chose sur le convoi. Donc, nous avons vu qu'un camion durant le trajet, donc j'ai donné l'ordre d'interception de ce camion pour essayer de trouver si c'était la sonnette, donc celui qui dit que le convoi passe ou qui donne des renseignements sur notre convoi.
C'est comme ça qu'on désigne en gros le guetteur qui prévient que le convoi va passer, c'est la sonnette, qui ensuite prévient les autres pour l'attaque, quoi.
Tout à fait.
D'accord. Donc là, il fallait voir si le camion, le seul truc aperçu, c'était pas cette fameuse sonnette.
Tout à fait. Pour essayer de sécuriser notre route et d'éviter tout danger.
Et donc c'est sur le chemin vers cette sonnette que le premier véhicule a sauté.
C'est sur le chemin retour, en fait. Il a intercepté le véhicule, contrôlé les occupants, et sur le chemin retour, il a explosé tout le... La tour, elle a sauté, en fait.
D'accord. Donc c'était quand même c'était un VAB,
c'était quoi? Oui, c'était un VAB.
Donc quand même un IED très significatif pour faire sauter un VAB. Comment dire? C'était un trajet, puisque on parlait du sable, etc., de l'enlisement, de toutes ces problématiques-là du Mali, c'était quand même une route ou c'était...
Une route à la malienne, c'était sur du sable.
D'accord, mais donc il y avait quand même un itinéraire, un passage bien défini, et c'était anticipable que vous alliez passer par là, quoi.
En fait, il y a plusieurs pistes qu'on utilise et on essaie de varier le plus possible ce qu'on appelle les traces. On essaie de varier, donc sans trop rentrer dans les détails de tous les modes d'action que nous faisons, mais on essaie de varier les itinéraires le plus possible, tout en restant sur les itinéraires définis comme les plus sûrs. Le problème, c'est que je pense, enfin, c'est une interprétation personnelle, ils l'ont vu passer dans un sens pour aller vers l'interception de véhicules et ils ont accroché l'IED sur le chemin du retour et le conducteur n'a rien vu et le VAB a explosé. Et c'est ensuite que j'ai donné l'ordre, évidemment, aux véhicules d'intervenir, donc pour monter une équipe de secours. Et c'est lors de cette équipe de secours que le deuxième véhicule a sauté sur une mine. Donc en 10 minutes, j'avais perdu mes deux véhicules et mes deux principaux interlocuteurs, puisque donc, sur un convoi, normalement, il y a le chef de convoi plus le chef d'escorte qui est en charge de toute la sécurité et son adjoint d'escorte qui le supplée s'il a un problème. Et donc là, en fait, je me suis retrouvé à gérer chef de convoi plus chef d'escorte dans 10 minutes, puisque tout s'était passé très très vite. Et donc le véhicule... Le premier véhicule.
Et par ailleurs, reprenons simplement ce que vous avez dit tout à l'heure, le radio bloqué, ça veut dire.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, donc c'est-à-dire que les procédures étaient. Enfin, je me souviens très bien de ces moments-là. On entendait la panique dans la voix du brigadier qui disait qu'il avait posé un garrot, mais on n'arrivait pas à communiquer avec lui. Donc j'ose à peine imaginer son état de panique à ce moment en venant de.
Mais donc rappelons simplement que c'est parce que c'est tout bête, mais c'est des VHF. Donc des VHF, quand on enclenche son poste, plus personne ne peut reprendre la main dessus. Donc il peut y avoir qu'un seul poste qui émet en même temps. Donc s'il y a un poste qui est bloqué en position de parler, quoi, en fait toute la fréquence est bloquée. Quoi.
Voilà. Oui, j'aurais pas dit mieux.
D'accord, donc vous vous retrouvez à suivre donc de loin, je ne sais pas à quelle distance c'était, mais quand même de loin... ce qui se passe,
premier accident. Je suis resté avec le convoi principal, moi.
Le premier accident, le deuxième accident, enfin la deuxième attaque. Et pendant ce temps-là, c'est bête, mais vous stoppez le convoi ou il faut continuer d'avancer pour pas fournir prise, pas peut-être fournir une cible?
Là, en fait, j'avais stoppé le convoi pour éviter d'avoir une trop grosse élongation avec mon véhicule qui était parti intercepter le camion. Donc j'avais stoppé le convoi, donc on était censé faire un stop court. Lors du stop convoi, le véhicule juste devant mon véhicule, je m'en souviens très bien, fait un brusque mouvement arrière et venait de repérer un bidon sur le côté avec deux fils qui sortaient du bidon. Donc on avait une alerte IED, donc ce qui m'avait permis de faire revenir le génie, parce que pour les 56 véhicules, on n'avait qu'un groupe génie, pardon.
Donc génie potentiellement de démineur.
Donc il y avait les équipes pour intervenir sur ce cas, sur ce type de situation. Mais ils étaient avec le PRI, donc à 10 km devant. Donc quand j'ai donné l'ordre de revenir au génie juste avant que le premier véhicule saute, donc il était déjà en route quand nous avons sauté, mais ça a quand même mis pas mal de temps pour le venir. Donc sachant qu'au pire de la situation... je me retrouve avec deux IED avérés et trois suspicions d'IED sur l'ensemble du convoi. Donc tout mon convoi a été fixé. Et cette fixation, elle a duré. On a réussi à se dégager et à rentrer en BOAT, à fermer la BOAT qu'à 21h.
Donc ça, il était quelle heure? Ah oui, il était 12h et quelques.
12h58, le premier.
D'accord, donc ça a pris quand même 8 heures pour tout.
Pour dégager tout le convoi et les mettre en sécurité sur une base opérationnelle avancée.
Et alors parlons peut-être, enfin, il y a eu combien de victimes
Alors, en tout, il y a eu. Donc, on comprend vite par les comptes rendus qu'on entend du brigadier quand il dit qu'il pose un garrot, qu'il pose un garrot, on comprend qu'il y a hémorragie. Donc, on comprend que c'est un blessé alpha, donc les plus graves. Ensuite, on attend que le médecin aille sur zone pour nous catégoriser les blessés, mais en tout, on a eu un alpha, un bravo, et en tout, puisqu'on a eu des traumas sonores et des petites contusions, on a eu 7 Charlie. Donc deux véhicules de moins pour mon convoi et deux équipages de moins à utiliser.
Et il y a l'alpha en question, s'en est sorti ?
Non, malheureusement, il est décédé des suites de ses blessures après son transport à l'hôpital. Donc il a été évacué par hélicoptère, mais il n'a pas survécu. Donc c'est posé le deuxième problème. J'avais déjà réfléchi.
Restons encore juste un moment sur ce truc-là, c'est-à-dire donc deux véhicules hors d'état d'agir, disons, à l'écart du convoi, d'autres véhicules qui sont de l'autre côté en plus.
Oui.
Donc quoi, vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie encore d'autres véhicules pour récupérer les équipages des deux véhicules accidentés ?
Oui, tout en maintenant la sécurité du convoi. Donc on est obligé de faire des équipes, puisqu'on ne laisse rien derrière. Donc outre les éléments de dépannage qu'on envoie pour récupérer les véhicules et les monter sur plateau, on envoie aussi le gendarme pour constater les choses, puisque nous avons un gendarme dans chaque convoi logistique. Là, on avait envoyé toute l'équipe SAN, donc c'est-à-dire que l'infirmière qui était dans un autre véhicule, plus la médecin qui était dans son propre véhicule, était partie et ils ont été obligés de se déplacer de pôle en pôle en allant d'abord du plus grave au moins grave. Et pareil pour l'équipe génie, j'ai dû prioriser l'équipe génie et lui donner l'ordre de faire d'abord tout ce qui concernait le véhicule le plus touché, puis le véhicule le moins touché, et ensuite de lever seulement les suspicions d'IED qui touchaient trois de mes véhicules sur le convoi.
Donc ça a pris plusieurs heures, donc évacuation hélico, évacuation, les autres vous les ramenez dans le convoi autant que possible. Vous repartez, vous arrivez donc le soir sur une base avancée. Et comment dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire comment est-ce que, pas on clôture une journée comme ça, parce que ça, j'imagine que ça se clôture jamais vraiment, mais comment, une fois que tout est sécurisé, qu'on est arrivé, qu'on a pu s'arrêter, quoi, littéralement, qu'est-ce qu'on fait ?
On fait ce qu'on a fait sur toutes les autres journées, sur toutes les BOAT, donc on met en sécurité tout le monde, ça c'est le plus important. Ensuite, ils s'occupent des véhicules. Évidemment, on s'adresse au chef d'élément et on s'adresse, si on peut, on fait un rassemblement, mais c'est parfois compliqué pour s'adresser au convoi et expliquer. Sinon, au minimum, il faut le faire par la radio. Moi, je l'avais fait par la radio parce que je savais que j'avais plusieurs éléments séparés en plusieurs points, comme vous l'avez rappelé. Donc, pour réunir tout le monde, c'était impossible. Et mon but du jeu, c'était vraiment de mettre tout le monde en sécurité, puisqu'on était en zone hostile, très clairement. Donc, au maximum, j'ai mis les gens en sécurité. Au fur et à mesure, ils sont venus agrémenter la BOAT. Et au fur et à mesure, j'ai parlé aux gens et je leur ai donné des nouvelles, puisqu'on n'a pas appris la mort de notre camarade tout de suite. Donc, au début, les nouvelles étaient plutôt rassurantes, on va dire. Donc, ça permettait de... Le convoi, à ce moment-là, n'avait pas ce choc qui l'avait frappé. Il était sous le choc de l'attaque, évidemment, mais officiellement, tout le monde s'en était tiré. Et c'est vraiment pas la même chose quand après on apprend le décès.
Vous l'avez appris quand ?
À 22h30, mon chef de corps m'a appelé pour m'annoncer qu'il était parti.
Et dans ces cas-là, puisque là vous êtes donc sur une base avancée, mais vous n'êtes pas encore à destination, vous n'êtes pas à l'endroit où vous pourrez vraiment vous arrêter, quoi, c'est vraiment une étape. Je ne sais pas, mais on le dit tout de suite. Déjà, est-ce que vous l'avez dit tout de suite ? Et si oui, est-ce qu'on réfléchit aussi à est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon contexte pour le dire ? Enfin, je sais pas comment est-ce que. Parce qu'il y a le fait d'intégrer ça pour vous, puis il y a aussi ensuite le fait de le transmettre et de le transmettre dans des bonnes conditions à vos hommes. Pas que. Enfin, l'objectif, c'est quand même de pouvoir continuer la mission parce que vous n'êtes pas à un endroit où vous pouvez vous arrêter.
Oui, tout à fait. J'avais déjà réfléchi à tout ce qui était problématique logistique pure, en fait. Comment j'allais gérer avec deux véhicules de moins. Enfin, en fait, ça fait trois véhicules de moins, puisque mon véhicule de transport qui transporte le VAB, fatalement, il peut plus transporter autre chose. Donc, en fait, ça me faisait trois véhicules de moins, et il fallait que j'avais déjà intégré comment j'allais procéder à ma manœuvre logistique. Donc ça, il n'y avait pas de problème.
Oui, mais donc c'est intéressant, c'est quasiment le réflexe, c'est le métier, quoi.
Le premier réflexe, c'était le métier. Mais ça, c'était avant que j'apprenne. Mais enfin, je suis content d'avoir eu ce raisonnement avant, puisque ça m'a permis ensuite de gérer au mieux l'événement qui se passait, c'est-à-dire l'annonce du décès.
Mais c'est intéressant, c'est le fait que ce soit vraiment les tâches qui arrivent en premier dans ces... Enfin, c'est-à-dire
tout le monde en sécurité, on se
la priorisation absolue, c'est
la continuité de la mission.
Ouais.
En l'occurrence, acheminer la ressource sur Abel Barra.
Et ensuite ?
Et en fait, quand j'apprends ça, moi déjà, y a le temps que j'absorbe la nouvelle. Et puis, ça s'est passé relativement vite. Et puis après, il y a la réflexion qui vient vite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord réveillé ma médecin pour lui dire que son patient avait succombé, pour la prévenir, et après on s'est mis tous les deux à mon VAB commandement et on a commencé à parler et j'ai commencé à réfléchir ce qui était le mieux. Donc on avait déjà passé du temps ensemble parce qu'on avait déjà fait tout ce qui était recomplètement de son matériel médical, puisqu'il y en a beaucoup qui a été utilisé par les deux attaques. Et là, moi je m'interroge sur comment faire pour que mon peloton de circulation et mon convoi, ils intègrent au mieux ce choc, ils encaissent au mieux ce choc et qu'ils continuent leur mission, c'est-à-dire assurer la sécurité du reste du convoi. Donc là, je prends le parti de...
Parce que rappelons, c'est eux qui avaient perdu un camarade, c'est-à-dire c'est cette partie-là du convoi...
C'est ça, c'était leur sous-officier adjoint qui est décédé. Donc là, moi, ce que je... prend parti, c'est d'aller chercher en fait en pleine nuit son chef de peloton pour lui annoncer en premier. Donc je le prends à part, on marche dans la BOAT et je lui annonce ces mots qui sont terribles à dire. Je lui annonce que son sous-officier adjoint est décédé. Et là, c'est le choc. On ne sait pas comment les gens réagissent en fait. Il y a des gens qui encaissent bien les nouvelles, il y a des gens qui encaissent vraiment mal les nouvelles. Là, c'était de la sidération que j'ai vue dans ses yeux. Il ne s'y attendait pas du tout. Et donc, on parle un peu de ce qui est mieux à faire pour son peloton, et puis j'essaye de lui donner les voies de comment je pense qu'il est mieux à faire pour voir son avis là-dessus. Et donc, je décide de laisser dormir ces hommes et d'annoncer que demain, le lendemain matin, je lui dis de me rassembler son peloton à 5h45 pour que je puisse annoncer, et ensuite j'annoncerai à l'ensemble du convoi la même chose. Donc là, sur ses paroles, il va se coucher, il ne va rien dire. On croise sa radio à lui, qui nous demande si tout va bien. Donc volontairement, je lui mens pour qu'elle passe une bonne nuit. Je lui dis que tout va bien et que le personnel blessé va bien. Et elle va se recoucher aussi. Et moi, pendant ce temps... j'arrive pas à dormir. J'ai dormi qu'une heure parce que la médecin m'a forcé à me coucher un petit peu. Mes résultats, j'en profite pour rédiger pendant que tout est frais dans ma tête les différents rapports sur la journée. Comme ça, j'ai les heures exactes.
Ce que j'allais dire, c'est vous rendez compte. Vous avez déjà rendu compte à ce moment-là. Enfin.
C'est l'échelon supérieur qui m'a annoncé le décès. Donc,
ouais. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il va y avoir... c'est-à-dire, vous avez juste donné l'information, ils le savent, mais il va falloir ensuite rendre compte, faire des récits détaillés, analyser tout
oui,
ça.
Oui, enfin, ouais, voilà, après, ils savent en gros ce qui s'est passé, parce qu'on a un logiciel de suivi de tout ce qui se passe.
Vous avez un logiciel qui est en temps réel ?
Enfin, on donne les comptes rendus en temps réel, évidemment, quand se passe l'événement. Donc, ils ont toute la chronologie des événements. Mais je fais un compte rendu plus détaillé pour être sûr qu'ils aient tous les détails que j'aurais pu oublier dans la
précipitation. Mais la nuit même, vous... Oui, enfin, c'est pas vous défiez de votre mémoire, mais c'est vous vous dites qu'il faut...
Je vais en profiter pendant que c'est... Oui, voilà, ouais. pendant que c'est frais. Et puis après, je dors, et le lendemain matin, à 5h45, le peloton est réveillé. Donc ça, je m'en souviens très bien, je me souviens de tous les regards quand j'ai annoncé le décès de leur sous-officier adjoint. Ils ont tous su rester très dignes, et en fait, je leur passe deux messages. Je leur dis que leur sous-officier adjoint... trois messages même. Je leur dis que leur sous-officier adjoint est décédé. Je leur dis qu'on ne peut pas faire demi-tour et que de toute façon, on a une mission à remplir. Et je leur dis que surtout, je compte sur eux. Alors qu'à 6h30, quand je fais le rassemblement du convoi, je veux qu'ils soient prêts à repartir et que la journée reprenne comme elle a dû reprendre, parce qu'on est dans une zone, la zone entre Kidal et Abeba, c'est une zone d'insécurité forte. Donc j'ai besoin que tout le monde soit sur le pied de guerre.
Mais donc ça veut dire que vous leur donnez... j'allais dire vous leur donnez 45 minutes, mais en fait vous leur donnez pas du tout 45 minutes, parce que s'ils ont des trucs à faire et qu'il faut partir à 6h30, ça veut dire que ça veut dire qu'ils ont peut-être 2-3 minutes pour rien faire et encaisser le truc, et ensuite il faut se mettre à faire tout de suite des trucs quoi pour préparer le départ.
Oui, j'ai pris le parti qu'ils se replongent vite dans le travail pour pouvoir justement compter sur eux un maximum et ne pas les faire réfléchir. Et effectivement,
ils étaient tous là à 6h30 prêts à partir.
Ils étaient tous là à 6h30 prêts à partir, et enfin, je les ai vus dès que j'ai rompu les rangs. En fait, certains ont craqué, certains ils se sont pris dans les bras, etc., etc. Ça a vraiment été un choc pour eux. Mais à 6h30, ils étaient là, et bon, quand on savait ce qu'on venait de leur dire, on voyait dans leur tête que c'était pas, que c'était dur, mais ils étaient là devant tout le monde. Donc après, il a fallu que j'annonce au reste du convoi. Et ça a été exactement le même message, c'est annoncer le décès de votre camarade, mais en même temps, la mission continue, et il faut avancer, et il faut qu'on arrive sur Abel Barra au plus tôt pour être en sécurité.
Et donc, vous êtes arrivé sans encombre supplémentaire, ensuite ?
On a eu une autre alerte IED le lendemain, on a été jalonné par l'ennemi, qui s'amusait à retourner de la terre et créer des sources de chaleur pour que ce soit vu par les avions et pour nous faire changer d'itinéraire. Ils avaient mis des bouts de fer dans les pions de passage obligés pour faire sonner les détecteurs. Enfin, ça a vraiment été animé. Au final, on a mis 3 jours là où on aurait dû mettre qu'une journée.
Ah ouais, donc c'est ils ont d'accord, c'est pas seulement des attaques, c'est aussi des signaux, ils placent aussi des signaux contradictoires qui coûtent beaucoup moins cher qu'une attaque qu'ils ont, mais pour
en l'occurrence là, oui, on sentait qu'ils étaient là, et comme on avait un dispositif d'écoute, on entendait les commentaires sur leurs actions, donc
Et les attaques, ça a jamais été une vraie attaque. Enfin, c'est des vraies attaques, pardon. C'est pas ce que je veux dire, mais ça a jamais été. Vous avez jamais vu l'ennemi. Il n'y a jamais eu d'attaque. Il n'y a jamais eu d'embuscade. Il n'y a jamais eu de type qui voulait prendre le. Enfin, vous attaquer directement, quoi.
Non, c'est de l'attaque indirecte. C'est l'IED, c'est quelqu'un, n'importe qui pose la batterie, qui enclenche l'IED, et puis voilà, ça fait les dégâts qu'on sait.
Et ensuite, quand vous êtes Donc vous êtes arrivé 3 jours plus tard, enfin pas tout à fait 3 jours plus tard, mais... Et à ce moment-là, quoi, vous restez combien de temps ? Vous repartez tout de suite ?
On avait un jour de relâche, et après on repartait dans le sens inverse.
Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, quand vous arrivez là, vous dites c'est quand qu'on va pouvoir prendre le temps, quoi ? C'était quoi la fin, quoi, de l'épisode pour vous dans votre tête ?
Bah en tout cas, c'était pas là. La vraie fin de l'épisode, c'est... En fait, dans ma tête, j'ai réfléchi très vite et je me suis aperçu qu'on aurait plusieurs problématiques. Notamment la problématique de la levée du corps qui ne pouvait pas avoir lieu. Et donc, ses camarades ne pourraient pas dire au revoir
parce qu'il avait déjà
aux personnes décédées, puisque lui, évidemment, la cérémonie se ferait pendant que nous sommes encore sur le terrain. Donc... Alors donc déjà, le plus important, c'est de contrôler que tout le monde va bien. Donc je profite de ce petit temps de repos, on va dire, où le peloton de circulation est au repos pendant que le peloton de transport travaille et charge et décharge les différents conteneurs. Je profite beaucoup pour parler aux gens. Donc là, je suis aidé par ma médecin qui parle aussi aux gens. Et puis on a eu de la chance, on avait une psychiatre sur zone qui était venue parce qu'ils avaient eu une attaque AED auparavant sur Abel Barra, donc qui était là et qui a parlé aussi aux gens pour savoir s'ils allaient bien. On s'est vite
rendu... Et ça allait, ouais. Bah, c'est-à-dire,
ça dépend. Il y avait eu des surprises. Par exemple, quelqu'un qui ne supportait vraiment pas, qui avait vraiment du mal, c'était un de mes équipiers qui transportait la carcasse du véhicule du décédé. Et en fait, lui, il supportait très mal le fait de transporter le véhicule du décédé. Et ça a été un point d'attention. Et après, il y a évidemment tous ceux qui avaient été victimes de l'attaque. On a dû en rapatrier certains par hélicoptère parce qu'ils ne pouvaient plus continuer la mission. Ils ne voulaient clairement pas faire le trajet retour par la route.
De toute façon, on peut rappeler que c'est la politique systématique. C'est dès qu'il y a une attaque, dès que quelqu'un est blessé, on le rapatrie automatiquement en France. Mais la question, c'était à quelle temporalité on les rapatrierait, quoi.
Oui, puis là, il y a plusieurs... comme c'était des légers, et puis c'était déjà sous le choc, enfin, ils ne se sentaient pas clairement de faire le trajet par la route et de possiblement revivre ce qu'ils avaient vécu. Donc on a pris le parti de les faire rentrer sur Gao directement. Après, il y a une partie qui fera tout le trajet avec nous quand même. Je les avais répartis dans d'autres véhicules, notamment le chef d'escorte que je prenais dans mon véhicule, ce qui fait que dès qu'il avait un moment de faiblesse, je prenais la main en fait sur ces hommes. En fait, j'ai maintenu la double fonction chef de convoi, chef d'escorte pendant tout le trajet, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de reprendre sa mission et qu'ils me reprennent, ils reprennent la main. Et dans ce cas, j'ai repris ma place de chef de convoi et lui sa place de chef d'escorte. Ça a pu ne se passer qu'à Kidal, ça.
Mais donc ça fait
plusieurs jours après.
Plusieurs jours ou quoi. Enfin, c'est littéralement vous serrez les dents. Tout le monde serre les dents, quoi.
Oui, c'est ça. Faut que tout le monde serre les dents, et après j'ai essayé de maintenir la cohésion, évidemment, de maintenir tout le monde la tête dans le guidon pour qu'il n'ait pas trop le temps de réfléchir et de penser à tous les détails. Et puis, enfin voilà, il y a des choses à faire, j'ai pris sur moi de les faire. Par exemple, récupérer les affaires du mort pour les renvoyer à Gao. J'ai pas demandé aux gens de la circulation de le faire, j'ai pas demandé à un de mes hommes de le faire. J'aurais dit, c'est bon, c'est moi qui vais monter dans le VAB, c'est moi qui vais monter dans le VAB. Enfin, je m'en souviens très bien, le VAB était plein de sang. Et c'est moi qui récupérais toutes les affaires du mort avec un brigadier chef qui, lui, était volontaire pour faire. Et on les a données aux gendarmes pour qu'ils puissent les refaire partir par hélicoptère pour les rapatrier à Gao.
Ouais, c'est dans les détails que ça se niche, je crois. Dans les micro-moments, quoi.
Oui, et puis j'ai essayé de les préserver un maximum pour qu'ils puissent remplir leur mission. Et j'ai tout pris. J'ai pris un maximum de ce que je pouvais prendre sur moi.
Et ensuite, quand donc vous avez fait le retour, qui j'espère s'est mieux passé.
Oui, un peu mieux.
Et une fois arrivé à Kidal.
À Kidal, en fait, on a passé 2-3 heures à Kidal. C'est pareil, on n'a pas laissé le temps aux gens de repartir. On a récupéré notre chef de corps qui était monté à Kidal pour faire la dernière partie du trajet avec nous, c'est-à-dire Kidal-Gao. Donc on a récupéré les gens qu'on devait récupérer. Puis on avait laissé des gens en base arrière pour préparer le trajet retour. Donc on récupère tout le monde. Et puis en fait, même pas une matinée, on arrive à Kidal, on laisse les véhicules, on reprend les véhicules, on repart. Le but du jeu, c'était de repartir vite et de repartir vite vers Gao. Donc c'est ce qu'on a fait.
Et donc c'est à Gao, quoi, 3-4 jours après.
Oui, c'est là qu'on desserre les dents. Et je me souviens, et je me souviendrai toujours de l'état de mes hommes quand on a passé les portes de Gao. À partir du moment où ils se sont sentis en sécurité, ils ont tous relâché. Et
c'était bien ou pas à la fois de relâcher, et comment ils ont relâché à ce moment-là?
Bon, en fait, là, j'ai pris sur moi et j'ai demandé au chef de corps. Je suis allé voir le chef de corps et j'ai dit bon, alors là, clairement, mes hommes, ils ont besoin de relâcher la pression. Je fais à mon colonel, ce que je vous propose, c'est ce soir, je les laisse faire ce qu'ils veulent et demain matin, ils seront tous frais, dispo, opérationnels. Donc, j'ai eu de la chance, le chef de corps m'a suivi. Donc, ils se sont lâchés. Ils se sont lâchés tous ensemble. Enfin, ils se sont lâchés, mais il n'y a pas eu de débordement, hein, je précise tout de suite. Ils ont fait ça très bien, mais ils savaient qu'ils avaient la liberté. Il n'y a pas eu de cadre pour les encadrer et dire.
Il
n'y avait
pas d'officier qui restait là pour les
surveiller. Non, voilà, enfin, c'est ça. C'était les chefs de groupe sont restés avec leur groupe. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire en travail en premier, et après, pour la soirée, pour la plupart, ils ont été boire une bière, et puis il y en a certains qui sont couchés tôt, il y en a certains qui n'ont pas réussi à dormir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous le lendemain matin opérationnels et prêts. Après, moi, j'ai demandé...
Non, mais c'est ça, et du coup, c'est le chapitre suivant, c'était quand? C'est-à-dire vous...
On a laissé une semaine de relâche, dans la semaine de relâche, on a fait... Alors, heureusement, on avait l'aumônier avec nous quand tout s'est passé. Donc,
c'était particulièrement important, ça, d'avoir l'aumônier?
Alors, en l'occurrence, c'était surtout pratique. Donc, c'était important pour certains, mais c'était surtout pratique. Parce que, résultat, il a vu ce qui se passait et il a pu organiser, mettre en place une messe pour ceux qui le désiraient au retour. Donc, le chef de corps a mis en place une cérémonie pour qu'on puisse dire au revoir et l'aumônier a mis en place une messe pour qu'on puisse dire au revoir. Et voilà, enfin, c'était dans le processus pour les gens pour réussir à dire au revoir à quelqu'un qui était parti sans qu'il le voie. Ça a été important et ça a permis que le reste du mandat se passe pour le mieux. Parce qu'après, il a fallu gérer l'histoire du remplacement, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas rester sans sous-officier adjoint.
Et vous avez gardé la même escorte ?
On a gardé la même escorte, ils sont restés, on en a rapatrié.
Je veux dire, c'est pas tournant, quoi. C'est pas des fois... Vous avez
ah non, moi, dans mon sous-groupement logistique, j'avais qu'un peloton d'escorte. Donc on a fait tout le mandat tous ensemble, on est reparti ensuite... Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de serrer la cohésion au maximum dans l'unité. Donc, ça passe par des petits jeux coès pendant le mandat. Ça passe par beaucoup de dialogues qui sont l'écoute du commandant d'unité et montrer qu'on est là pour eux, etc.
Et ça a duré combien de temps, la fin du mandat ?
4 mois et demi le mandat.
Et
là, c'était mon premier convoi au Mali.
D'accord. Et après, quand vous rentrez, c'est bête, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous avez vu la famille ?
Oui, j'ai vu et je suis toujours en contact avec le père du décédé. Je suis toujours en contact avec celui qui avait été rapatrié, le conducteur. Je suis toujours en contact avec mes principaux cadres du mandat. Enfin, on est restés tous très soudés.
Ça crée une cohésion.
Ça crée des liens.
Plus durable, quoi.
Ça crée des liens, ça c'est sûr. Et encore maintenant, je contrôle qu'ils a. Enfin, je contrôle pas. C'est plus ce mot-là, mais je m'assure qu'ils vont bien. Et je sais que par exemple, chaque année au 4 novembre, on s'écrit tous pour raconter les nouvelles. Et je sais que j'écris beaucoup dans l'année à certains. On est 2, 3, 4 à s'écrire tout le temps. Et puis ça permet de voir ce que les gens sont devenus, parce qu'après, la phase du retour est quand même très compliquée. On passe rapidement à une vie ce qu'on appelle normale, et il faut vérifier que tout le monde supporte bien ce passage.
C'est particulièrement compliqué dans ce cas-là, vous pensez ?
Le SAS fait beaucoup de bien.
Alors le SAS, on va peut-être en dire un mot, parce que c'est un truc que les gens connaissent.
À titre personnel, en tout
cas.
Ouais,
c'est un truc qu'on connaît très peu de l'extérieur. Bon, j'ai appris moi-même l'existence il n'y a pas si longtemps. C'est le fait que vous rentrez pas directement
en
France.
Non, pas directement.
Vous allez quelque part, soit bronzé, soit pas. Mais enfin, en tout cas, vous allez dans un tiers lieu qui soit pas l'OPEX et qui soit pas la France.
Tout à fait. Ce qui permet de... Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a certains qui trouvent ça superflu. Moi, personnellement, je trouve que c'est utile. J'avais déjà connu ça pour l'Afghanistan. Et c'est vrai que là, au retour du Mali, en plus, on a pu être au SAS en unité constituée. C'est-à-dire que je suis parti avec tout mon sous-groupement. On est parti en une VAM. Donc, on a tous été désengagés en même temps. On a tous fait le SAS en même temps. On est tous rentrés en même temps. Et ça fait beaucoup de bien. Là-bas, on a pu commencer des entretiens psy, on a pu faire des séances de techniques d'optimisation du potentiel, on a pu faire des moments de détente, tout simplement. Et puis voilà, les gens étaient plus en tri, les gens étaient dans un hôtel, ils étaient tous très bien, et ça fait beaucoup de bien. Surtout qu'après, le retour, c'était particulier, puisque mon peloton d'escorte était du 515e régiment du train, donc pas de mon régiment. Donc à partir du moment où on posait le pied sur le pied en France, on savait qu'on les perdait. Donc les au revoir, ils ont été très rapide, et c'est pour ça qu'après on a aussi maintenu le lien pour vérifier que potentiellement les gens ne faisaient pas de stress post-traumatique après.
Merci beaucoup, commandant Fabien.
Merci, de rien.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.